Le dévoilement de Dieu numéro 96. Toutes les deux vignes utilisent la parole pour se justifier. Le 19 mai 2019. Brian Kozurek. Pasteur. Nous examinons depuis maintenant 7 semaines les attributs que la vraie vigne et la fausse vigne partagent. Et nous les avons vus et identifiés dans la Bible, pour la vraie vigne et la fausse vigne, puisqu'ils sont nés durant le même réveil. Le même réveil de pluie que, dans la Bible, Dieu dit être sa doctrine. Et les deux partagent donc la même doctrine, le même recueil de cantiques, et peut-être même le même banc. Cela signifie qu'à la fois la vraie vigne et la fausse vigne sont des croyants. Ils sont tous les deux religieux. Tous les deux adorent le même Dieu. Et tous les deux offrent des sacrifices au même Dieu. Maintenant, ce matin, nous continuerons notre analyse des attributs que partagent à la fois la vraie vigne et la fausse vigne. Et puisque les deux sont nés lors du même réveil, donc lors de la même effusion doctrinale du Saint-Esprit, nous examinerons le fait que les deux utiliseront alors la parole de Dieu pour leur justification. Nous apprendrons également à travers cette étude ce pourquoi il est important de comprendre ces attributs partagés que possède à la fois la vraie vigne et la fausse vigne. Parce qu'après tout, Jésus lui-même nous a enseigné dans Matthieu 24.24 que les deux esprits seraient si proches que cela séduirait les élus si c'était possible. Et dans notre étude d'aujourd'hui, nous verrons pourquoi c'est d'autant plus séduisant que la vraie vigne et la fausse vigne partagent tellement les mêmes attributs du réveil de leur naissance. Parce que nous verrons comment Satan utilise la même parole de Dieu qui avait donné à Adam et qui avait donné à Jésus afin d'essayer de séduire. C'est pourquoi j'aimerais intituler ce sermon le 7e attribut partagé que les deux groupes, la vraie vigne et la fausse, les vierges sages et les folles, utilisent la parole de Dieu pour se justifier et justifier leur action. Nous lisons dans Jacques 2.19 « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Vous voyez, tout ce que nous devons faire pour comprendre cela, c'est de retourner dans le livre des commencements pour voir comment Satan a utilisé la parole de Dieu afin de convaincre Ève de voir la parole de Dieu selon son point de vue, ce qui estère sa compréhension, qui estère différent de la compréhension que Dieu avait donnée à son mari Adam. Genèse 2.16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, 17 mais tu n'aimes mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal acquis. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18 L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Très bien. Nous avons établi que la parole de Dieu fut donnée à Adam. Et à ce moment-là, Adam était seul. Puis Dieu dit qu'il n'était pas bon pour lui de demeurer seul. Ensuite, nous lisons, 19 L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. 20 Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il n'y trouva point d'être semblable à lui. 21 Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 22 L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. 23 Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est osée de mes osées et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. 24 Sester pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 25 L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Maintenant, allons rapidement au moment où le serpent est venu à Ève, la femme d'Adam, et lui a cité la parole que Dieu avait donnée à Adam. Genèse 3.1 Le serpent était le plus rusé, le plus sage, le plus intelligent de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous n'y mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Maintenant, je veux d'abord que vous remarquiez qu'en lui présentant la même parole de Dieu qui avait été donnée à son mari Adam, comment cela l'avait désarmé d'emblée. Ce serait comme d'aller à l'église et les premiers mots que vous utilisez sont les mots qui reflètent la doctrine de cette église. Cela les désarme d'emblée. Ou encore, aujourd'hui, au lieu de cela, la première question qui vous pose, c'est Esther, vous fréquentez quelle église? Si vous nommez une église qui appartient à leur cercle d'église, donc à leur dénomination, vous êtes reçu comme un frère, Esther à dire, à bras grands ouverts. Mais si vous leur dites que vous écoutez frère Vell, ils reculent et se mettent immédiatement sur la défensive. Maintenant, remarquez, lorsque nous avons écrit ce passage ci-dessus, nous avons surligné le point d'interrogation, après les paroles que le serpent a adressées à Ève. Car, jusqu'à ce point d'interrogation, il a cité à Ève exactement ce que Dieu avait dit à son mari, sauf qu'il a ajouté un point d'interrogation qui a alors annulé la parole et qui, non seulement, a placé un doute sur cette parole, mais ce point d'interrogation lui fit dire exactement le contraire de ce que Dieu avait dit à Adam sans changer un seul terme à ce qui fut dit. Remarquez, le serpent prit la même parole que Dieu avait dit à Adam et le présenta à Ève sous la forme d'une question, utilisant sa puissance de raisonnement sur elle pour l'amener à douter ce que Dieu avait dit. Ainsi, Satan, à sa manière, justifiait son mensonge par la parole même de Dieu, parce qu'il a dit à Ève les mêmes mots qu'Adam lui a dit que Dieu lui avait dit. Il n'était jamais venu lui dire « Tu n'y mangeras pas de tous les arbres du jardin. » Parce que ce n'était pas ce que Dieu a dit à Adam. Ce que Dieu a dit à Adam, c'était « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » 17 Mais tu n'y mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal acquis. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Par conséquent, lorsque le serpent est venu à Ève, il est venu en lui citant la parole que Dieu avait instruite à son mari. S'il était venu en disant, « Dieu n'a jamais dit ce que ton mari a dit que Dieu avait dit », elle aurait été sur ses gardes. Cela aurait amené Ève à douter du serpent. Alors il dit, « Oui, Dieu l'a dit. » Mais ce n'est pas exactement de la façon dont Adam te l'a relaté. Ainsi, le tout premier mensonge dit à la race humaine fut justifié en utilisant exactement le même mot que Dieu adressa à Adam. Maintenant, c'est très important, car comme nous vous l'avons montré la semaine dernière par notre illustration d'un petit agneau joué caché sous une couverture et comment tout le monde n'a vu qu'une grosseur ou une bosse sous la couverture et ils n'ont pas pu identifier ce qui était sous la couverture. Et comment je leur ai dit que c'est tout ce que l'homme connaît de Dieu. Ils n'aiment peuvent pas voir Dieu. Ils n'aiment peuvent le connaître que par les attributs qu'il leur montre par l'un des cinq sens avec lesquels ils entrent en contact avec leur demeure terrestre. Donc, dans ce cas, tout ce qu'ils pouvaient voir était une grosseur ou une bosse sous la couverture. Puis j'ai dit à la congrégation que je leur citerai cinq attributs qui les aideraient à connaître ce qui était sous la couverture, parce que la seule façon dont nous pouvons connaître Dieu, c'est par sa parole. Par conséquent, je leur ai cité cinq mots qui étaient en fait les attributs de ce qu'il y avait sous la couverture. Maintenant, le problème résidait dans le fait qu'avant de leur donner les attributs pour les aider à connaître ce qu'il y avait sous la couverture, j'ai divisé l'église en trois groupes. J'ai donné à un groupe une note qui disait, « Quand vous entendrez chaque attribut, je veux que vous pensiez à un lépreux. » Et à un autre groupe, j'ai donné une note qui disait, « Quand vous entendrez chaque attribut je veux que vous pensiez à un chiot. » Au troisième groupe, je leur ai donné une note qui disait, attendez avant de vous décider d'avoir entendu citer tous les attributs. Vous connaissez l'histoire et comment j'ai cité les cinq attributs décrivant le petit agneau sous la couverture. Mais comme deux des groupes avaient déjà pris leur décision quant à ce qui était sous la couverture, chaque attribut sans exception que je leur citais Néhémie faisait que les fortifier dans leur idée préconçue. Maintenant, ce que j'ai fait, c'était de citer un attribut à la fois des quatre premiers attributs qu'ont en partage, un lapro, un chiot et un petit agnolet. 1. Douce fourrure extérieure. 2. Fourrure colorée. 3. Quatre pattes et la capacité de sauter de petites clôtures. 4. De nature à se sacrifier soi-même. Etc. Au moment où je leur citais le cinquième attribut, ils étaient tellement coincés dans leur idée préconçue d'un petit chiot ou d'un lapro que lorsque j'ai dit que c'était un ami au berger, comme cinquième attribut, ils n'étudiaient plus ce qui était sous la couverture par l'attribut cité, mais ils avaient déjà décidé. Et deux tiers de l'église se sont séduits à croire que c'était soit un petit lapin soit un petit chiot. Et ils ne se sont pas arrêtés pour réfléchir au fait que les deux derniers attributs auraient dû leur montrer que leur idée préconçue était fausse. Et c'était exactement ce que Satan a fait à Ève en lui citant la parole que Dieu avait donnée à son mari. Cela l'a désarmé. Mais vous devez comprendre que Satan ennemi vient jamais avec sa propre parole. Il vient toujours en répétant la parole de Dieu, mais avec sa petite distorsion. Dans son sermon Le Combat le 31 décembre 62 William Branham, le prophète de Dieu, dit si donc Ève s'était arrêtée pour raisonner lorsqu'il, elle lui cita la parole, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, car le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. 17 Et Satan Néhémie lui donna jamais tort. Il dit, certainement, c'était juste. Mais, ajouta-t-il, tu vois, vous avez besoin d'une nouvelle lumière. Quelque chose d'un peu différent de ce que Dieu avait dit. Et si vous le faites, vous serez juste un peu plus intelligent. Vos yeux s'ouvriront. Mais, dit-elle, Dieu a dit que nous mourions. 18 Oh, sûrement, répondit-il. Voyez-vous, vous vous aventurez juste un peu. Certainement vous n'aimez mourrez point. Mais Dieu a dit que vous mourrez, et cela règle la question. Et alors cela brisa cette grande lutte de traction à la corde et plongea la race humaine entière dans la mort, parce qu'elle écouta un raisonnement qui s'opposait à la parole de Dieu. C'était une honte de l'avoir fait, mais la chose est faite maintenant. Néanmoins, nous sommes maintenant toujours fortifiés car ce chaînon fut reconstitué en Christ Jésus. Nous le savons. Dieu nous a donné la meilleure défense, se fier simplement à sa parole. Par conséquent, nous voyons que Satan utilise la parole de Dieu pour justifier sa propre doctrine. Et c'est ce que chaque dénomination et chaque église, y compris celles qui prétendent croire ce message mais qui sont tombées dans une fausse doctrine, font également. Car toutes les dénominations fondent leur doctrine sur un élément de la parole de Dieu, en plus du raisonnement d'un homme. Alors Néhémie, vous étonnez pas que nous ayons des faux docteurs parmi nous dans ce message. Qui d'autre irait prendre la parole du prophète de Dieu du temps de la fin de Malachie 4 et faire une fausse doctrine de ce qu'il a dit? Les dénominations Néhémie le citeront même pas, et si effectivement elles le citent, c'est seulement pour rejeter ce qu'il a dit. Mais Satan est intelligent et il est très perspicace, et il amène des hommes directement dans ce message à prêcher contrairement au message en prenant les paroles du prophète de Dieu et en peignant par des mots une image de quelque chose qui est complètement contraire à ce qu'il a enseigné. Oh, il est certainement rusé. Mais l'apôtre Pierre nous avertit dans 2 Pierre 2 que cela arriverait et que nous soyons sur nos gardes. J'aimerais lire cela dans la traduction Vuest qui traduit, de Pia 2.1 mais de même ou de la même manière qu'il s'est élevé des faux prophètes parmi le peuple. De même, parmi vous, il y aura des faux docteurs qui seront de nature à apporter, à côté de la vraie doctrine, des hérésies destructrices reniant même le Seigneur qui les a achetés, s'attirant ainsi une destruction rapide. Deux et beaucoup suivront leur conduite licencieuse jusqu'à sa consommation, à cause de qui la voix de la vérité sera vilipendée. Il en sera ainsi à cause de ces hommes qui apportent la fausse doctrine à côté de la vraie doctrine. Ces hommes s'introduiront dans le message et donneront une fausse compréhension de la parole de Dieu et les gens seront pris dans ce que ces hommes diront en tant que mauvais interprètes de la parole de vérité. 3. Et dans la sphère de la convoitise, par des mots fabriqués, ils vous exploiteront. Pour qui? Depuis des temps anciens, le jugement n'est-il pas oisif? Nous sommes donc avertis qu'au temps de la fin, les hommes s'introduiront simplement dans le milieu du vrai message et parmi les vrais croyants et apporteront avec eux leur propre point de vue à ce que proclame la vraie parole de Dieu. Et l'apôtre Paul nous a également avertis qu'au milieu de nous s'élèveront des hommes qui feront de même. Acte 20.26 Esther, pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous? 27 Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. 28 Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. 29 Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. 30 Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. 31 Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Maintenant, alors que nous continuons de lire le livre de la Genèse, observez comment ce dialogue avec Ève et le serpent a éloigné Ève de ce que Dieu a dit, que le serpent voulait qu'elle comprenne. Genèse 3.1 De la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'ayez m'y mouriez. Or remarquez qu'il commença la conversation en disant que le fruit était bon à manger. Il lui a d'abord dit, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'y mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et remarquez qu'il place un point d'interrogation là où il y avait un point. Alors elle répète la parole, comme elle l'a apprise d'Adam, de la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'ayez m'y mouriez. Alors, le serpent observait comment il attaque sa pensée pour tranquilliser sa pensée. 4 Alors le serpent dit à la femme, vous n'ayez m'y mourrez point. 5 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal acquis. Oh! Là là! Dit-elle. Je n'y ai jamais pensé de cette façon. Je n'ai jamais entendu cela avant. Mais cela a du sens. Or c'est exactement ce que le diable fait en ce jour. Il envoie ses suppositer la parole parlée de Dieu ou la parole écrite de Dieu et ensuite il y ajoute sa propre compréhension au lieu de laisser la parole telle que Dieu l'a dite. Il commence à ajouter ici et à ôter là et la parole de Dieu perd sa clarté cristalline. Maintenant, souvenez-vous il y a environ 1 semaine, j'ai cité Irénée disant, leur langage ressemblerait au nôtre, tandis que leurs sentiments sont très différents. Et Jésus nous a dit la même chose lorsqu'il a dit, ils se vêtiraient comme s'ils étaient des brebis, tandis qu'en fait, ils sont des loups ravisseurs pendant tout ce temps. Et l'apôtre Paul nous en a même averti dans Galates 1.6 en disant, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer un autre évangile, un autre évangile, un évangile d'une nature différente. C'est non pas qu'il y a un autre évangile, ce n'est pas un allo évangile, ce n'est pas un évangile entièrement différent. Mais il y a des gens qui vous troublent, des gens qui vous agiteront, vous ameuteront, vous ébranleront dans votre foi et qui veulent renverser ou pervertir, corrompre et transmuter, modifier la nature d'une chose en une autre, l'évangile de Christ. 8. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. 9. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je n'y serais pas serviteur de Christ. 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. 12. Car je n'ai mis l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Par conséquent, l'apôtre Paul nous dit que même à son époque, ils avaient déjà commencé à venir à côté de la vraie doctrine et en tordant très légèrement ce que, lui, Paul enseignait. Il présentait un évangile d'une nature différente de ce qui leur avait été apporté par Paul. Et c'est également ce qui est arrivé avec Ève. Remarquez que la femme, après son discernement initial, fut désarmée par cette capacité de raisonnement. Après lui avoir dit que l'avertissement de Dieu n'était pas exactement ce qu'elle avait pensé qu'il serait, Satan lui a donné de regarder aux attributs, et en observant les attributs partagés, cela a désarmé sa prudence et lui a permis d'entrer dans une relation adultère avec le serpent. Remarquez-la en train d'examiner les attributs partagés, 6. La femme vit que 1. L'arbre était bon à manger et 2. Agréable à la vue. Et 3. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'a-t-elle fait? Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Remarquez l'effet désarmant que ces attributs partagés ont eu sur Ève. Regardez comment le serpent a cité la même parole de Dieu à Ève que Dieu avait dit à son mari, qu'il a lui a cité. Et regardez comment Satan a utilisé la parole de Dieu pour la citer à Jésus alors qu'il essayait d'inciter Jésus à faire ce que lui voulait que Jésus fasse. Maintenant, je crois qu'au fur et à mesure que nous nous éloignons de la génération qui a marché avec le prophète, nous entrerons de plus en plus dans une période de questionnement sur le véritable but du message. Si vous allez avec moi dans le livre de Luc, nous examinerons une autre scène où Satan vient en citant la parole de Dieu. Luc 4.1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il n'y mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'il fut écoulé, il eut faim. 3. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne cette pierre qu'elle devienne du pain. » 4. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme n'y vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. » 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 6. Et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » 8. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, Jette-toi d'ici en bas. Remarquez que Satan, voyant qu'il n'aboutissait à rien, recourut aux Écritures, car il est écrit, d'ici il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Citation tirée de Psaume 91.11. Et, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied n'émeute contre une pierre. Mais remarquez la réponse de Jésus. Il est allé tout droit à la parole. 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu n'émeuteras point le Seigneur, ton Dieu. 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Dans son sermon Hébreu chapitre 4 dit 1er septembre 57 et sous William Branham, le prophète de Dieu, dit, son œuf il l'a transporté sur le sommet du temple a dit, si tu es un fils de Dieu, jette-toi en bas, il a recouvert, coated en anglais -n.d.t. Non pas cité, coated, en anglais -n.d.t. Mais il a recouvert des Écritures. Il dit, il est écrit, il a donné des ordres aux anges concernant. De peur qu'à n'importe quel moment, ton pied n'émeute contre une pierre. Il te portera. 110. Et Jésus alla droit à la parole et le réprimanda. 111. Il le transporta sur la montagne et lui montra les États-Unis, l'Allemagne et la Suisse, ainsi que toutes les nations du monde qui pourraient exister. Voilà votre voyage dans le temps. Et dit, je vais. Elles m'appartiennent toutes. Je fais d'elles tout ce que je veux. Pas étonnant que nous ayons des guerres et des troubles. Il dit, j'en fais. Pas étonnant que les femmes s'habillent. Et s'en sortent avec la loi. Elles sont toutes gouvernées par le diable. C'est ce que la Bible dit. Satan dit, elles m'appartiennent. J'en fais tout ce que je veux. Il dit, si tu m'adores, je ferai de toi un roi comme moi. 112. Jésus dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras lui seul. Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Jésus savait qu'il en hériterait lors de ce grand millénium, lorsque son royaume viendra, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On n'y portera plus de shorts. On n'y boira plus. Il n'y aura plus de convoitise. Il n'y aura plus d'adultère. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de chagrin. Il héritera de chaque nation. Elles sont à lui. C'est vrai. Elles sont à lui, et il en héritera. Mais Satan les possède pour un certain temps. C'est-à-dire le jour dans lequel nous vivons. Également, dans le sermon de Fr. Branham pourquoi je suis un saint exalte d'hymne 30 août 53 p. Il dit, 41 eh bien. Ceci va vous faire resserrer votre veste ecclésiastique juste un tout petit peu. Mais écoutez. Remarquez. Dieu Néhémie peut pas être juste. Si vous dites, je suis un croyant. Car il était aussi. Et le diable l'Esther aussi. C'est-à-dire vrai. Il est revenu comme un croyant. Et vous dites, eh bien, je vais à l'église, j'irai à l'autel. Cain l'a fait aussi. Cain a bâti l'autel ou une église pour le Seigneur. Vous dites, je suis membre d'église. Cain l'était aussi. Et Cain avait offert un sacrifice. Vous dites, j'investis autant d'argent chaque année dans mon église. Cain l'a aussi fait. J'adore le Seigneur du fond de mon cœur. Cain l'a aussi fait. Cain était un croyant, un adorateur, tout aussi fondamentaliste qu'Abel. Amen. Oh, j'aime ça. Je prie. Oh Dieu, je nos cœurs. Eh bien, Néhémie, soyez pas excité. Je sais où je suis. Regardez, mais je me sens un peu religieux maintenant même. 42. Remarquez, quand je vois le pour et le contre, quand je vois le négatif et le positif, quand je vois qu'un se lever là au commencement. Eh bien, nous sommes retournés dans la Genèse, au commencement de l'arbre, c'est-à-dire là qu'il a été planté. Cain était strictement un fondamentaliste, tout aussi fondamentaliste qu'Abel. Il aimait le Seigneur, il adorait le Seigneur. Et il a bâti un autel pour le Seigneur, il a offert un sacrifice pour le Seigneur, il accomplissait ses vœux envers le Seigneur, tout aussi religieux que n'importe quel enseignant fondamentaliste peut l'enseigner aujourd'hui. C'est-à-dire vrai. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel, car Abel, par la foi, a offert un sacrifice plus excellent que celui de Cain, en étant juste. Eh bien, si on avait le temps, j'aurais voulu insister là-dessus. Eh bien, c'est-à-dire là le commencement de deux arbres, j'aimerais que vous observiez, l'un, à droite, l'autre, à gauche, Cain et Abel. Eh bien, c'est-à-dire là que fut plantée cette chose dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la même dans le jardin d'Éden, et cela a commencé là, dans la Genèse, la même. Et à nouveau, William Branham dit dans son sermon La Préparation Mère 11 novembre 53-31, l'autre soir, je vous ai dit que Cain était un croyant. Et je vous donnerai un morceau un peu plus solide que cela ce soir si vous voulez croire cela. Le diable est-il un croyant? La Bible dit qu'il l'est. Il croit et il tremble. Le diable est-il un croyant? Eh bien, si la croyance et la foi en Dieu, c'est tout ce qu'il vous faut avoir pour être sauvé, alors le diable est-il sauvé selon la parole de Dieu. C'est vrai. Mais, frère, il faut le Saint-Esprit, une nouvelle naissance, une régénération, une nouvelle création en Jésus-Christ. Quand Dieu descend et met son esprit en vous, alors vous n'aimez vous appartenez plus, mais vous appartenez à Dieu. Oh, je commence déjà à me sentir religieux. Et si vous n'aimez vous appartenez plus, alors vous n'êtes plus égocentrique, et vous n'êtes plus centré sur vous-même. L'apôtre Paul dit dans Romains 8.1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. 6. C'est l'affection de la chair, c'est-à-dire la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est-à-dire la vie et la paix. 7. Car l'affection de la chair est-à-dire inimitié contre Dieu, parce qu'elle n'est mise sous son mais pas à la loi de Dieu, et qu'elle n'est mise le peut même pas. Car comment pouvez-vous avoir l'esprit de Dieu lorsque vous êtes autant égocentrique? 8. Or ceux qui vivent, selon la chair n'est mise saurait plaire à Dieu. 9. Pour vous, vous n'est mise vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est aimé, il lui appartient pas. 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 12. Ainsi donc, frères, nous n'y sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. 16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 18 J'estime que les souffrances du temps présent mis sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Maintenant, prenons un autre exemple de la Bible avant de conclure. Ouvrons nos Bibles dans 1 Roi 22 et commençons à lire au verset 1. On restait 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. De la 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. 3 Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramah en Galad est terre à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » 4 Il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramah en Galad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Mais dans son âme quelque chose n'est s'estère pas apaisé. Alors il se rattrape et dit aussitôt. 5 Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Eh bien, ils avaient un prophète dans le pays et s'estère par lui que vous vous enquérez de la parole du Seigneur. 6 Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ 400, et leur dit, « Irai-je attaquer Ramah en Galad? Ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur les livrera entre les mains du roi. » 7 Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions le consulter ?» 8 Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Car il n'est mis me prophétise rien de bon. Il n'est mis prophétise que du Malachi, sester Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi n'est mis parle pas ainsi. 9 Alors le roi d'Israël appela un eunuque, et dit, fais venir de suite Miché, fils de Jimla. 10 Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. 11 Sédécia, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. 12 Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes, en disant, monte à Ramah en Galad. Tu auras du succès, et l'Éternel les livrera entre les mains du roi. 13 Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi, voici, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole, de chacun d'eux. Annonce du bien. 14 Miché répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. 15 Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramah en Galad? Ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte. Tu auras du succès, et l'Éternel les livrera entre les mains du roi. 16 Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? 17 Miché répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. 18 Le roi d'Israël dit à Josaphat, Néhémie te l'ai-je pas dit? Il Néhémie prophétise sur moi rien de bon. Il Néhémie prophétise que du Malachi. 19 Et Miché dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Vint l'Éternel dit, qui séduira Achab? Pour qu'il monte à Ramon en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 21 Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? 22 Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout, sors, et fais ainsi. 23 Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal à qui contre toi? 24 Alors Sedécia, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Miché sur la joue, et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est stérile sorti de moi pour te parler? 25 Miché répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. 26 Le roi d'Israël dit, prends Miché, et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. 27 Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. 28 Et Miché dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. 29 Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramon en Galade. 30 Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mets-toi. Revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa, et alla au combat. 31 Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. 32 Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est Esther le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. 33 Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. 34 Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne, et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. 35 Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens. Et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. 36 Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. 37 Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. 38 Lorsqu'on lava le char et l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Achab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. 39 Le reste des actions d'Achab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit, et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? 40 Achab se coucha avec ses pères. Et Achazia, son fils, régna à sa place. Maintenant, permettez-moi de vous laisser avec une pensée ce matin. Rappelez-vous que c'était un esprit qui a dit qu'il serait un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes d'Achab. N'est-ce pas? D'accord? Alors quand ces prophètes ont reçu l'onction, qu'ont-ils dit? Ainsi dit le Seigneur, n'est-ce pas? Ils ont dit nous avons la parole du Seigneur. Sors, et prospère. Mais a-t-il prospéré? Il est sorti et il est mort. Ce n'est pas la prospérité, c'est le jugement. Or Jésus nous avait enseigné dans Luc 8.18 prenez donc garde, soyez vigilants et faites attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas en autre même ce qu'il croit avoir. Et encore dans Marc 4:23-23, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. 24, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Remarquez qu'il dit, faites attention. Faites très attention à ce que vous entendez, car la mesure que vous utilisez pour écouter sera la mesure que vous recevrez. Si vous avez une idée préconçue qu'il y a un petit chiot sous cette couverture, c'est la mesure que vous utiliserez pour jauger les attributs. Et si vous pensez que c'est un petit lapro qu'il y a sous cette couverture, c'est ce avec quoi vous mesurerez chaque attribut déclarant ce qui est sous cette couverture. Et ainsi les hommes se séduisent eux-mêmes, par leur propre perception trompeuse. De Thessaloniciens 2:10-13. Et avec toutes les séductions de l'iniquité ou de l'injuste sagesse, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, ils ont pris plaisir à une mauvaise compréhension, soient condamnés. 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Maintenant, la traduction vue est le dit ainsi. Et avec toutes sortes de séductions perverses axées sur la crédulité de ceux qui périssent, cette crédulité étant causée par le fait qu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité dans le but qu'ils puissent être sauvés, et pour cette cause, Dieu leur enverra une influence trompeuse qui les amènera à croire au mensonge. Afin que soient jugés tous ceux qui n'y croyaient pas à la vérité mais qui prenaient plaisir à la méchanceté. Nous lisons également dans 1 Timothée 4:1 mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Remarquez que ce sont des esprits séducteurs et des doctrines de démons, et ces esprits séducteurs sont des messagers de Satan se déguisant en anges de lumière, en des quintuples ministres que nous voyons dans 2 Corinthiens 11:13-15-13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice ou de juste sagesse. Leur fin sera selon leurs œuvres. Au verset 4-6. Nous lisons dans la version de la Bible appelée le message, il semble que si quelqu'un se pointe en prêchant un tout autre Jésus que celui que nous avons prêché, un esprit différent, un message différent, vous le supportez assez bien. Mais si vous supportez ces grands apôtres, pourquoi Néhémie pouvez-vous pas supporter le simple que je suis? Je suis aussi bon qu'eux. Il est vrai que je n'ai pas leur voix. Je n'ai pas maîtrisé cette douce éloquence qui vous impressionne tant. Mais quand j'ouvre la bouche, je sais au moins de quoi je parle. Nous n'avons rien retenu. Nous vous avons informé sur tout. Remarquez que Paul les appelle ses super bons apôtres plus justes que Dieu, mais faux jusqu'à la moelle, et regardez ce qu'ils ont fait à l'Église primitive. Nous avons vu cela dans Galates 1:6-9 que nous vous avons déjà lu plus tôt. Ils se sont introduits et ont perverti le vrai enseignement de leur. Jésus nous dit dans Marc 7:7-9 qu'ils rejettent la parole de Dieu en faveur de leurs enseignements. Et qu'est-ce que cela fait? Cela annule la puissance de la parole dans leur vie. Ainsi ils crucifient la parole pour leur part. 6:8 Jésus répondit, Esaïe avait raison au sujet des imposteurs comme vous. A en fait frapper dans le mille. Ces gens font étalage de dire la bonne chose, mais leur cœur n'y est pas. Ils agissent comme s'ils m'adorent, mais Néhémie le pense pas. Ils m'utilisent simplement comme couverture pour enseigner tout ce qui leur convient. Abandonnant le commandement de Dieu et adoptant les dernières tendances. 9-13 Il poursuivit, eh bien, tant mieux pour vous. Vous vous débarrassez du commandement de Dieu afin que vous n'y soyez pas incommodés à suivre les modes religieuses. Moïse a dit, respectez votre père et votre mère, et quiconque, dénonçant son père ou sa mère, devrait être tué. Mais vous vous en désengagez en disant qu'il est parfaitement acceptable de dire au père ou à la mère, don, ce que je vous devais. J'en ai fait des à Dieu, vous soulageant ainsi de vos obligations envers votre père ou votre mère. Vous riez pour supprimer la parole de Dieu et griffonner un caprice à sa place. Vous faites beaucoup de choses comme ça. Puis Paul nous dit dans Hébreux 6.4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, si ceux qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Remarquez que Néhémie ne peuvent pas crucifier Dieu qui est esprit, mais ils peuvent crucifier la parole pour leur part. Et c'est exactement ce qu'ils font, la rendant inutile pour eux-mêmes par leur propre tradition et croyance. Il Néhémie dit pas qu'il le crucifie pour vous ou pour moi, mais pour leur part en donnant la promesse d'aucun effet pour eux-mêmes. Écoutez, si vous souhaitez quitter ce message, cela peut attrister mon cœur de vous voir partir, car je sais que ce Néhémie sera pas bon pour vous. Mais cela Néhémie va pas m'écorcher la peau. Je Néhémie serai pas celui qui en souffrira. C'est à vous qui êtes celui qui en souffrira. Et lorsque vous crucifiez à nouveau, pour votre part le Fils de Dieu, cela vous blessera et rendra la parole de Dieu sans effet dans votre vie. Ça n'a rien à voir avec ma vie. C'est à vous qui en souffrirez. Je sais où je me tiens dans sa parole. Et je sais que je serai là parce qu'il me l'a montré. Il m'a continuellement conduit et m'a montré, des années avant que les choses n'arrivent, exactement ce qui arriverait. Et je suis étonné de voir ces choses arriver exactement comme il me les a montrées, et continue de me les montrer. Alors de quitter cette église et le message pour cette heure Néhémie fera que rendre la parole de Dieu sans effet pour vous. Mais cela Néhémie me dérangera pas du tout. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, maintenant dans la chair, je vis par la même révélation par laquelle le Fils de Dieu a vécu. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2.13 et dans 2 Thessaloniciens 1.10. Paul nous dit, en cette heure, nous devons recevoir sa gloire, sa doxa, ses opinions, ses valeurs et ses jugements qui estèrent la pensée même de Dieu en nous. 10 Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui y auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Et c'est pourquoi il nous dit qu'il nous enverra l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui-même. Éphésiens 1.17 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, vous voyez, il n'est pas question de soi, mais de lui. 18 Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. 19 Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 1 Thessaloniciens 4.13 Nous n'y voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous n'y vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne les devancerons pas ceux qui sont morts. 16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné ou à un cri de commandement, qui estère un message, à la voix d'un archange, qui estère le ministère de la résurrection, et au son de la trompette de Dieu, qui sera l'enlèvement de notre être à sa rencontre dans les airs, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous voyons donc que Dieu lui-même est descendu avec un cri qui estère le message. Mais c'est le travail de Satan de citer ce message et de la rendre ensuite inefficace en y ajoutant son propre point de vue perverti. Peu importe ce que finit par être ce point de vue. Rappelez-vous simplement d'une chose. La parole du Seigneur est sûre. Et si Dieu l'a dit, alors cela va sûrement s'accomplir. Et l'accomplissement sera l'interprétation de ce qu'il a dit. Et toute autre interprétation que celle venant de l'accomplissement, c'est l'Éden de Satan. Inclinons la tête dans la prière. C'est Grace Fellowship Tabernacle, février 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.